Aujourd'hui, nous allons examiner la toute-puissance de Dieu. Nous allons nous rappeler quelque chose des temps anciens. Il nous est dit dans la Bible de nous rappeler des choses qui sont arrivées dans le passé. Et il y a un but précis à cela. C'est indiqué dans la Bible. Ça nous exhorte, ça nous rappelle justement que Dieu est tout-puissant, qu'il est suprême et souverain, et qu'il accomplit exactement toute sa volonté. Allons pour commencer à Éphésiens, chapitre 1. Nous allons commencer à lire au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors, Dieu nous a appelés et nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, sans reproche, devant lui. Verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est son plaisir de nous offrir en héritage la vie éternelle. Et nous devons vaincre nous-mêmes Satan et la société de Satan autour. Il nous a appelés à un but extraordinaire. C'est son plaisir qu'il en soit ainsi. Allons au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Il y a un héritage qui nous attend. Nous ne l'avons pas encore. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, on voit ici que Dieu a un plan précis et qu'il l'accomplit. Nous en faisons partie. Il travaille avec nous, avec ceux qu'il appelle maintenant. Nous avons été appelés et il travaille avec nous pour que nous puissions obtenir cet héritage dont il est question ici. Et il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu va accomplir toute sa volonté. Il est tout-puissant, il est suprême. Il va réaliser tout ce qu'il a dit qu'il allait faire. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler une histoire véritable qui s'est produite dans le passé, quelque chose de puissant. C'est écrit dans la Bible et on retrouve ces récits-là aussi chez les historiens. Ça nous montre que Dieu est tout-puissant et qu'il va accomplir tout ce qu'il a dit. Et il veut que nous fassions partie de cela. Il veut que nous soyons des participants actifs de ce qu'il est en train d'accomplir et de ce qu'il prépare. Verset 12. « Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous devons développer la foi, nous devons faire confiance au Christ et à Dieu qu'il va accomplir sa volonté. Nous développons cette foi. Une façon de développer la foi, c'est de se rappeler ce que Dieu a dit qu'il allait faire et voir ce qu'il a fait. C'est d'étudier la Bible, d'y réfléchir, de méditer là-dessus, de voir ce que Dieu a réalisé dans le passé. Alors, allons maintenant à Romains, chapitre 8, s'il vous plaît. Romains, chapitre 8, et je vais continuer à expliquer le fait que Dieu accomplit un plan grandiose sur la terre et que nous sommes spéciaux à ses yeux. Il nous a appelés pour un but bien précis. Nous avons un travail à faire. Ce n'est pas sauver un jour, sauver pour toujours, non. Nous devons travailler à notre salut jusqu'à la fin. Romains 8, verset 28. Nous citons souvent ce verset. Nous allons voir les deux versets suivants aussi. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, encore son plan. Tout va se réaliser. Il faut nous comporter comme il faut et nous devons lui permettre de nous diriger. Nous devons nous soumettre à lui. Et regardez le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Dieu désire que nous devenions comme le Christ et que nous fassions un jour partie de la famille éternelle de Dieu, que nous soyons les petits frères du Christ à ce moment-là, dans la même famille. Dieu a décidé de nous appeler pour un but bien précis. Prédestiné, c'est le mot prorosio. Ça veut dire qu'il a décidé d'avance de nous appeler pour un but précis. Et nous devons travailler avec lui pour atteindre ce but. Ce n'est pas sauver un jour, sauver toujours. Nous avons une œuvre à accomplir et nous devons continuer à nous soumettre au Christ. Nous devons laisser le Christ vivre sa vie en nous. C'est la foi du Christ en nous. C'est comme ça que nous pouvons vaincre. Mais Dieu travaille en nous selon son plan, avec chacun d'entre nous ici aujourd'hui, chacun de ceux de l'Église à travers le monde. Il est tout-puissant, il est suprême. Il a toute la puissance nécessaire. Et il fait les choses se réaliser à travers l'histoire. On le voit dans les pages de la Bible et on le voit dans les pages des livres d'histoire également. Ça va être formidable dans le monde à venir de pouvoir parler à Moïse, Abraham, Noé et d'apprendre. On va leur demander des questions par rapport à ce qui s'est passé. Dieu est suprême. Dieu, au cours de notre propre vie, s'arrange pour que des événements précis se passent pour nous préparer. Et c'est pour ça qu'il nous faut nous rappeler les choses qu'il a réalisées dans le passé pour l'admirer. Admirer ce Dieu tout-puissant. Le but du sermon, c'est ça aujourd'hui, que nous admirions le grand Dieu qui nous a appelés. Et j'aimerais vous encourager également à vous rappeler que souvent, il nous faut attendre avec patience qu'il accomplisse son œuvre. C'est un autre objectif du sermon d'aujourd'hui. Parfois, il nous faut attendre avec patience qu'il accomplisse ce qu'il va accomplir. 5 années, 10 années, 70 ans, comme on verra. Et troisièmement, nous devons être disposés à faire sa volonté, à accomplir dans notre vie ce qu'il nous montre devoir faire. C'est son désir que nous héritions la vie éternelle. Et il peut réaliser cela, mais nous ne sommes pas des robots, rappelez-vous. Il nous faut accepter le Christ en nous, il faut nous soumettre à sa volonté, il nous faut résister à Satan, au péché et à la société autour de nous chaque jour. Si nous faisons ça, Dieu va accomplir totalement sa volonté dans notre vie selon le plan qu'il a pour chacun de nous. C'est formidable. Ce n'est pas sauver un jour, sauver toujours. Dans Deutéronome 30 et le verset 19, il est dit clairement, Dieu dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Voyez-vous, on a un rôle à jouer, on a un choix à faire. On doit faire des choix. Allons à 1 Pierre chapitre 4 et le verset 17. 1 Pierre chapitre 4 et le verset 17. Nous servons un Dieu tout-puissant et il va accomplir son plan. Il veut que nous fassions partie des premiers fruits, de ses prémices et il va accomplir sa volonté en ce qui nous concerne individuellement. Si nous faisons les bons choix si nous choisissons d'obéir et de nous soumettre, d'obéir à ses commandements, de développer les fruits de l'esprit. 1 Pierre, chapitre 4 et le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. L'Église de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et nous sommes actuellement sous l'examen de Dieu, sous le jugement de Dieu. Est-ce que nous allons être obéissants à Dieu? Est-ce que nous allons faire sa volonté? Est-ce que nous allons l'admirer et vouloir faire toute sa volonté? Le temps est arrivé, le moment est là sur nous où le jugement a commencé par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu, ceux qui rejettent Dieu, qui rejettent l'Évangile? On nous dit de se rappeler les choses qui sont arrivées dans le passé. J'aimerais vous présenter un personnage historique. Je ne vous dirai pas son nom tout de suite. Vous en avez déjà entendu parler. Je vais commencer par vous raconter une histoire concernant un jeune garçon. C'est une vraie histoire. Ça s'est produit. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. Ce petit garçon s'est retrouvé dans une rue poussiéreuse dans le royaume de Médie. Il jouait avec ses amis dans la rue. Il avait environ 10 ans. Et ce jeu, c'était de jouer au roi. Ce jeune homme a été élu par ses amis pour être le roi du groupe. Dans sa fonction de roi, il a émis des décrets, des directives, et ainsi de suite. Il a donné des responsabilités aux autres autour de lui. Et un de ces enfants-là, qui jouait avec lui, le fils d'un noble de la ville, a refusé de suivre les directives de ce petit roi. Vous connaissez ce jeune homme, ce jeune garçon. Dieu l'a choisi pour accomplir quelque chose d'énorme dans l'histoire. Allons 11 ans avant ça, avant ce jeu dans les rues. Je vais vous ramener en arrière plus de 2000 ans pour que nous puissions admirer encore davantage ce Dieu que nous servons et ce qu'il peut faire, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Avant que ce jeune homme ne naisse, voici ce qui s'est passé. Un roi, à ce moment-là, nommé Astyage, ça s'écrit A-S-T-Y-A-G-E-S, Astyage, il était roi dans le royaume de Médie, roi des Mèdes. Ce roi a commencé à avoir différents rêves qui l'ont intrigué, qui l'ont même inquiété. Il a fait venir ses magiciens. La Bible en parle comme étant des devins ou des magiciens, ceux qui prédisent l'avenir. Alors, ces magiciens-là ou ces devins ont interprété les rêves qu'il a eus de bonne façon, avec justesse. Et ça l'a troublé le cœur du roi. Ils lui ont dit que la fille de ce roi-là, qui venait d'être enceinte, allait donner naissance à un garçon qui éventuellement allait renverser le roi Astyage. Alors, s'inquiétant de son trône et de sa vie, le roi a choisi un de ses serviteurs fidèles, Harpage, H-A-R-P-A-G-E. Vous pourrez voir ces choses-là dans les livres d'histoire aussi. Alors, il a demandé à son serviteur Harpage de dérober l'enfant à sa naissance. Il n'était pas né encore. De l'emmener dans les champs et de le laisser mourir, tout simplement. On est à peu près à 590 avant Jésus-Christ. Ce jeune prince est né. Harpage, le serviteur du roi Astyage, a obéi au roi jusqu'à un certain point. Il a dérobé le nouveau-né, mais il n'a pas pu se décider à tuer l'enfant, à le faire mourir. Il craignait que s'il faisait mourir l'enfant, éventuellement, le roi pourrait regretter sa décision et vouloir revenir en arrière. Alors, ce qu'il a fait, il a pris le bébé et il l'a remis entre les mains d'un fermier. L'historien Hérodote, qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, en parle de façon claire dans son livre intitulé « L'histoire ». Il relate cette histoire, indiquant que ce fermier a élevé ce bébé sans savoir qu'il était un prince. Harpage n'avait pas dit au fermier qui était le bébé, parce qu'il se serait mis à risque à ce moment-là d'être découvert et que le roi s'en prenne à lui. Hérodote indique comment le fermier a élevé l'enfant sans savoir qui il était. Question. Pourquoi est-ce que le roi Astiage a eu ses rêves concernant sa fille qui allait donner naissance à un enfant qui allait renverser son trône? Et pourquoi le jeune prince n'a-t-il pas été tué par Arpage, mais qu'il a été élevé secrètement par un couple de fermiers? Et pourquoi s'est-il retrouvé un jour dans une rue poussiéreuse, 10 ans après, jouant au roi? Et ce jeu, à ce moment-là, a changé l'histoire. Ce petit jeu entre ses enfants a changé l'histoire. Il y a des réponses à ces questions-là. Allons à Éphésiens, chapitre 6, s'il vous plaît. Éphésiens, chapitre 6. Une des raisons pour lesquelles les magiciens ont interprété le rêve avec justesse, c'est parce qu'il y a un monde des esprits réels qui existe, les forces des ténèbres. Paul en parle dans Éphésiens 6. Il y a un monde réel des esprits qui intervient. Et ces forces des ténèbres étaient conscientes, savaient certaines prophéties, connaissaient certaines prophéties. Éphésiens chapitre 6, c'est pour ça qu'ils ont pu interpréter le rêve de bonne façon. Dieu l'a permis. Éphésiens 6 et le verset 11. Il nous est rappelé qu'il nous faut prendre l'armure de Dieu parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, comme c'est marqué au verset 12. Ça nous montre à quel point Dieu est suprême. Dieu est beaucoup plus fort que ces forces des ténèbres. Dieu est suprême. Il est le Tout-Puissant au-dessus de tout. Ces forces des ténèbres étaient à l'œuvre à ce moment-là. Ils sont encore à l'œuvre aujourd'hui avec la permission de Dieu. Satan est le Dieu de ce siècle. Satan diffuse ses idées. Il contrôle et manipule largement la société actuelle. Nous vivons dans ce monde et nous devons lutter contre ces forces. Dieu est beaucoup plus puissant que tout ça. Ses forces étaient à l'œuvre il y a plus de 2000 ans dans les circonstances que je vous mentionne. Une autre raison pour laquelle ça s'est passé, allons à Daniel chapitre 4, s'il vous plaît. Daniel chapitre 4. Et nous allons lire le verset 17. Dieu allait accomplir son plan selon son calendrier, son horaire, avec qui il allait choisir. Ça allait se réaliser. Et les devins, les magiciens allaient être frustrés, être confondus, parce que Dieu est suprême. Daniel 4 et le verset 17. Ici, c'est l'histoire du roi Nebuchadnezzar, qui a appris une leçon pénible. On voit ici qu'il y a eu une décision qui a été prise. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Une décision a été prise à ce moment-là. Quel était le but de cette décision? Ça concerne à ce moment-là Nabucodonosor, bien sûr. C'est avant les événements dont je vous parle aujourd'hui par rapport à ce jeune homme. Alors, pour que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Il y a tellement de leçons à tirer de ce simple passage de la Bible. Dieu a travaillé avec un garçonnet qui a échappé à la mort, qui a été élevé par un couple de fermiers, par des esclaves, et ce garçonnet-là ne savait pas qui il était, et ses parents adoptifs ne le savaient pas non plus. Ils ne savaient pas qu'il était le petit-fils d'un roi. Et Dieu allait donner un royaume à ce garçonnet. C'était la volonté de Dieu, et il allait l'accomplir, comme nous allons voir. Dieu a décidé de nous donner un royaume. Le parallèle est clair. Il faut le voir, ça nous encourage. Nous sommes rien, comme le petit garçon n'était rien. Nous sommes les faibles du monde. Alors, quoi alors? Dieu est tout-puissant. Il va accomplir sa volonté. Il va réaliser ce qu'il a décidé de réaliser à travers nous, si nous sommes fidèles. Allons à Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe, chapitre 46. Et nous approchons le moment où je vais vous révéler qui est ce jeune garçon dont je vous parle. Vous avez peut-être déjà deviné. Ésaïe, chapitre 46. Verset 9. Il nous a dit ici, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. » C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le sermon. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. » Pour quel but? Pas simplement parce que c'est divertissant ou que c'est enthousiasmant. Non, il y a une raison fondamentale pour ça, pour laquelle nous devons nous rappeler de ce qui s'est passé dans le passé. Et c'est dit clairement ici, « Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Personne d'autre n'est semblable à Dieu. Ces princes des ténèbres qui ont révélé à Astiage l'interprétation exacte du rêve ne sont aucun défi pour Dieu, ne représentent aucun risque pour Dieu. Satan, ses démons et les faux dieux ne peuvent représenter aucun défi pour Dieu, aucun risque pour Dieu absolument. Verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Dieu va accomplir sa volonté. C'est sa volonté d'amener plusieurs fils à la gloire. Le Christ sera le premier-né de plusieurs frères. Ça dépend de nous. Si nous le faisons, le jugement est sur nous. Nous avons à décider, à choisir et à persévérer. Mais si nous avons la bonne attitude, Dieu va nous amener à terme. Dieu, de toute façon, va établir son royaume. Lorsque le Christ reviendra, Dieu va accomplir sa volonté dans ces étapes de son plan. Et ceux qui ont été fidèles seront là. On peut penser, qui est ce jeune homme? C'est Cyrus, loin de Dieu. C'est d'ailleurs le titre de mon sermon, Cyrus, loin de Dieu. Dieu savait d'avance qui il allait choisir et il a choisi Cyrus pour un but bien précis. Nous n'avons pas le temps de faire de grandes digressions ici, mais nous allons revoir Cyrus dans la résurrection du grand trône blanc. J'ai hâte de le voir. Dieu l'a utilisé. Il l'a appelé son oint. Mais Cyrus ne comprenait pas. Vraiment, il a continué à adorer son dieu, Marduk. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il nous a dit de nous rappeler les choses du passé pour nous rappeler que Dieu est Dieu et qu'il n'y a personne d'autre comme lui dans l'univers. Il est le Dieu suprême. Allons à Jérémie, chapitre 25. Jérémie, chapitre 25. Et voyons le récit montrant comment Cyrus a libéré les Juifs de la captivité. Et soyons encouragés de voir comment la puissante main de Dieu a agi. Jérémie 25, le verset 8. « Il nous faut être encouragés d'admirer Dieu, qu'il est tout-puissant, compter sur lui. » Deuxièmement, il faut être patient devant Dieu. Les Juifs ont dû attendre plusieurs années avant d'être libérés, et il nous faut aussi persévérer et attendre. Troisièmement, Dieu révèle sa volonté, et il veut que nous soyons disposés à faire sa volonté. C'est sa volonté que nous soyons disposés à faire sa volonté. Nous savons quelle est sa volonté, vivre selon ses commandements, annoncer l'Évangile, nous aimer les uns les autres, être le sel de la terre, et ainsi de suite. Alors, Jérémie 25, et le verset 8, ça concerne la captivité babylonienne. C'est une prophétie renommée. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. » Alors, Dieu prononce un jugement de malédiction ici sur les Juifs et sur les Lévites et les autres tribus qu'il y avait avec eux, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles. Verset 9, « J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre les habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines. » Juda allait être dévasté. Dieu passe un jugement ici sur son peuple rebelle. Verset 10, « Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. » Il y a un parallèle entre ce qui s'est passé là-bas, à ce moment-là, et ce qui va se passer bientôt. Aujourd'hui, le péché est partout et se multiplie. Qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent faire le party, ils veulent faire la fête, ils veulent s'évader, ils veulent se plonger de plus en plus dans la fange du péché sous toutes ses formes. C'est ce qu'Israël a fait il y a 2500 ans et c'est ce que les nations israélites modernes font aujourd'hui. Alors, Dieu a passé un jugement. Verset 11, il dit, « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Dieu va amener la désolation et la dévastation sur Israël moderne. Il y aura une captivité, mais elle durera, celle-là, 3 ans et demi. Dieu va accomplir sa volonté, ce qu'il a décrété. Et nos nations et les nations du monde vont apprendre leur leçon. Nous n'avons pas besoin de passer par la captivité. Verset 12, une promesse. « Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai une ruine éternelle. » Voyez-vous, Dieu a promis qu'au bout de 70 ans de captivité, il allait intervenir pour libérer. Et ça va se passer encore. Dieu va utiliser la Syrie moderne, les descendants du système babylonien, pour punir Israël. Ça s'est passé à l'époque, ça va se passer encore aujourd'hui. Et après, il va établir son royaume sur la terre. Alors, nous avons ici la prophétie des 70 ans. Revenons à notre histoire maintenant. Revenons à notre histoire. Vous savez qu'il s'agit de Cyrus, le petit garçon qui jouait dans les rues. À ce moment-là, il avait 10 ans. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qu'il est Cyrus. Il ne s'appelait pas Cyrus à ce moment-là. On ne connaît pas son nom réel. L'histoire ne le dit pas. Hérodote, l'historien, décrit l'histoire très bien. Je vais lire dans le livre 1 d'Hérodote. Cet enfant, étant âgé de 10 ans, eut une aventure qui le fit reconnaître. Un jour que dans le village où étaient les troupeaux du roi, il jouait dans la rue avec d'autres enfants de son âge. Ceux-ci l'élurent pour leur roi, lui qui était connu sous le nom du fils du bouvier ou du fermier, si vous voulez. Il distribuait aux uns les places d'intendant de ses bâtiments, aux autres celles des gardes, et ainsi de suite. Je vais passer les titres ici, le détail, je vais aller un peu plus loin. Le fils d'Artambarès, homme de distinction chez les Mèdes, jouait avec lui, Artambarès, A-R-T-E-M-B-A-R-E-S. C'était le gouverneur, en fait, de la ville. Donc, ici, il parle du fils du gouverneur de la ville. Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Parce que Dieu accomplissait sa volonté, vous allez voir. Comment ça se fait que le fils du gouverneur jouait avec le fils d'un esclave, se proclamant roi dans ce jeu-là? Je continue la lecture. Ayant refusé d'exécuter ses ordres, Cyrus le fit saisir par les autres enfants et maltraité à coups de verge. Alors, on voit ce qui s'est passé dans le jeu. On ne l'eut pas plutôt relâché. Outré d'un traitement si indigne de sa naissance, il alla à la ville porter ses plaintes à son père contre Cyrus. Il est allé trouver son papa pour se plaindre. Le gouverneur de la ville. Artambès n'était pas heureux de voir son fils traité de cette façon-là. Alors, ce qu'il a fait, il est allé voir le roi. Je continue le récit d'Hérodote. Dans la colère où était Artambarès, il alla trouver le roi Astyage. Vous vous rappelez le nom du roi? Il alla trouver le roi avec son fils et se plaignit du traitement odieux qu'il avait reçu. « Seigneur, dit-il, en découvrant les épaules de son fils, c'est ainsi que nous a outragé un de vos esclaves, le fils de votre bouvier, de votre fermier. » À ce discours, à cette vue, le roi Astyage voulut venger le fils d'Artambarès. Dieu accomplissait sa volonté. Vous allez voir où tout ça va mener. Et où tout ça a mené. Alors, il envoya chercher le fermier et son fils. Lorsqu'ils furent arrivés, le roi a regardé Cyrus. Il ne savait pas que c'était son petit-fils à ce moment-là. Et il a dit, « Comment, dit-il à Cyrus en le regardant, étant ce que tu es, as-tu eu l'audace de traiter d'une manière si indigne le fils d'un des premiers de ma cour? » Et Cyrus répondit, « Loin de Dieu, a répondu, il n'avait pas le Saint-Esprit, c'est clair. » Mais Dieu l'utilisait. Mais je pense que Dieu l'a inspiré de bonne façon. Et voici sa réponse. C'est rapporté dans d'autres historiens aussi. Il a dit, « Je l'ai fait, Seigneur, avec justice. Les enfants du village, du nombre desquels il était, m'avaient choisi en jouant pour être leur roi. Je leur en paraissais le plus digne. Tous exécutaient mes ordres. Le fils d'Artambarès, lui, n'y eut aucun égard et refusa de m'obéir. Je l'en ai puni. Si cette action mérite quelque châtiment, me voici prêt à le subir. » Je ne lirai pas le restant pour sauver du temps, mais à ce moment-ci, le roi Astyage a reconnu son petit-fils. Certains historiens disent qu'il s'est évanoui, d'autres disent qu'il s'est retiré parce qu'il avait ressenti un malaise, mais il avait reconnu son petit-fils. Peut-être aussi les traits du visage, peut-être comme les siens ou comme ceux de sa fille. Astyage s'est retourné et s'est vengé sur ses magiciens. Il les a fait assassiner. Il a fait assassiner aussi Arpage, son serviteur. C'était une période vraiment sanguinaire. Il a commencé à assassiner ces personnes-là autour de lui. Et ce qu'il a fait, il a envoyé Cyrus à sa vraie mère, qui vivait à ce moment-là avec son mari, un noble perse. Et ça aussi, ça a une incidence dans l'histoire. 10 années se passent, à peu près, encore, et Cyrus veut prendre sa revanche sur son grand-père. Alors, il rassemble ses serviteurs perses et il leur fait faire une expérience. Il leur fait faire du travail dans les champs une journée et le lendemain, il leur donne un grand banquet. Il leur demande ensuite, qu'est-ce que vous avez aimé le mieux, travailler au champ ou avoir un banquet? Il leur a dit à ce moment-là, plutôt que d'être esclaves des Mèdes, allons les conquérir. Nous serons les dirigeants et nous pourrons festoyer chaque jour. C'est ce qu'ils ont fait. C'était le moment venu que Dieu avait décidé pour que les Perses renversent les Mèdes et que l'Empire perse ensuite renverse le gouvernement babylonien ou l'Empire babylonien. Daniel 5 et le verset 21. Daniel 5, verset 21. Quelle leçon Dieu a-t-il montré à Nabuchodonosor lorsqu'il a fait de lui comme un animal pendant 7 années et il a mangé de l'herbe, verset 21, en parlant de Nabuchodonosor, il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devait être semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les hommes sauvages. Dieu a voulu qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. C'était le temps pour Cyrus de renverser son grand-père et ensuite de renverser l'Empire babylonien pour que les Juifs soient libérés après la punition de 70 ans qui leur avait été imposée. C'est clair, formidable. Allons à Ésaïe 44, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 44. Nous allons lire à partir du verset 24. Ici, on voit plusieurs détails de la prophétie. Ésaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Il parle de Cyrus ici. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Vous vous rappelez les magiciens, les devins qui avaient interprété correctement le rêve au roi Astiage? Dieu parle d'eux ici. À peu près 150 ans avant que ça se produise. Dieu les a frustrés, pour ainsi dire. Il parle des devins d'Astiage ici au verset 25. Il dit, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Voyez-vous, ça fait partie de tout le scénario, cela. Dieu indique ici clairement que les prophètes de mensonges allaient être anéantis. Ils ont été assassinés. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages. Autrement dit, il dit, je confirme les prophéties de Jérémie, de Daniel et des autres. Dieu confirme la parole de ses serviteurs et il frustre les devins méchants. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera rebâtie. Dieu avait déjà dans son plan que Jérusalem soit reconstruite. Et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Ça décrit ce que Cyrus allait faire, parce que pour rentrer à Babylone, il allait devoir entrer par le fleuve sous la ville. Dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, avant même qu'il soit né. Je dis de Cyrus, il est mon berger. C'est environ 130 ans avant sa naissance. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, chapitre 45, verset 1, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. Il décrit comment il allait entrer dans Babylone à travers les doubles portes d'airain. Dieu est suprême. Nous connaissons cette histoire-là. C'est bon de la vérifier et de la voir en détail. Lorsqu'on se sent petit, frère et sœur, lorsqu'on se sent tout petit, faible, sans valeur, rappelez-vous de Cyrus. Rappelez-vous ce jeune homme. Volé à sa mère, donné à des esclaves. Mais Dieu avait un grand but pour lui et il a accompli sa volonté en ce qui concerne Cyrus. Dieu peut accomplir sa volonté. À 100%. Et il désire que nous y arrivions, que nous arrivions au royaume, ce qui est beaucoup plus important que ce que Cyrus a fait. Voyons au verset 13, verset Ésaïe 45 et le verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et il libérera mes captifs. Sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Retenez bien ceci. Dieu rapporte par Ésaïe ici que les Juifs allaient être libérés de leur captivité, non pas pour un paiement. Il allait simplement mettre ça dans l'esprit de Cyrus de libérer gratuitement les captifs. Il y a un cylindre qui existe qu'on appelle le cylindre de Cyrus. On le retrouve au British Museum. C'est un cylindre sur argile, on peut le voir sur Internet. Ça remonte aux années 538-529 avant le Christ. Et sur ce cylindre de Cyrus, il est écrit ceci, décrivant Cyrus entrant à Babylone. « Lorsque moi, c'est Cyrus qui parle, bien disposé, je suis entré dans Babylone, j'ai établi le siège du gouvernement dans le palais royal au milieu des jubilations et des réjouissances. Et Marduk, le grand Dieu, fit en sorte que les habitants de Babylone m'aimèrent. » Alors, Cyrus n'a pas donné hommage et reconnaissance à Dieu, à Yahvé. Non, il n'était pas converti, il n'avait pas l'esprit. Il avait son propre Dieu. Chaque jour, je continue la lecture, j'ai adoré Marduk et mes troupes nombreuses circulaient au cœur de Babylone. Hérodote et d'autres relatent la même chose et décrivent comment Cyrus a renversé le régime babylonien, l'empire babylonien. Si Dieu peut accomplir sa volonté avec Cyrus, un non-converti, en tant que jeune garçon, à combien plus forte raison accomplira-t-il sa volonté dans votre vie si vous le suppliez et si vous vous soumettez? Il y a une question qui a été soulevée dans la sermonnette aujourd'hui, et c'est très important, ça a le rapport avec ce que je vous dis. Sommes-nous convaincus que par le Christ vivant en nous, nous sommes capables d'accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions? Sommes-nous convaincus que par le Christ vivant en nous, nous sommes capables d'accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions? Est-ce que nous le croyons? Qui est plus important dans le plan de Dieu, Cyrus ou bien vous? Vous êtes appelé pour être prémisse, pour devenir un être divin, pour régner avec le Christ à jamais. Cyrus était simplement un homme mortel appelé pour un but limité dans le temps et régnant sur un royaume limité. Allons à 2 Chroniques, chapitre 36, s'il vous plaît. 2 Chroniques, chapitre 36. Est-ce que Cyrus a accompli la volonté de Dieu? Bien sûr. 2 Chroniques 36 et le verset 22. La première année de Cyrus, roi de Perse, ce jeune serviteur de Dieu qui ne le savait pas et qui jouait dans les rues avec ses petits compagnons il y a très longtemps, il est devenu roi d'un des plus grands empires de l'histoire. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. La volonté de Dieu s'accomplira. Dieu va accomplir la parole qu'il donne à ses prophètes, à ses serviteurs. Je trouve ça tellement encourageant. Bien sûr, ça nous montre que nous sommes rien, mais ça nous montre comment Dieu nous aime et comment Dieu aime ceux qui le servent, comment il a aimé ses serviteurs au cours de l'histoire, Moïse, Josué. Et regardez simplement dans la façon dont Dieu dit les choses ici. Il aurait pu dire « La première année de Cyrus, j'ai accompli ma volonté. » Non, plutôt que ça, il dit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, bien sûr, tout le crédit va à lui. » Il dit « Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. » Voyez-vous la façon affectueuse que Dieu utilise? Dieu souligne le travail de Jérémie. Ce n'est pas en vain que Jérémie a travaillé. Jérémie était un de ses serviteurs et il a accompli la volonté de Dieu comme nous devons l'accomplir. Réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit, fait publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem et en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Alors, Cyrus a libéré les Juifs de leur captivité. Ça a été annoncé plus de 150 ans avant et Cyrus a libéré les Juifs exactement 70 ans après que les Juifs eurent été amenés en captivité. Dieu accomplit sa volonté à la lettre. Dr. Meredith l'a mentionné dans un article du Tomorrow's World, septembre-octobre 2001, sous le titre « Comment Dieu intervient dans les affaires du monde? » J'aime comment Dr. Meredith a présenté les choses. Il dit « Les armées de Cyrus ont envahi Babylone par surprise. » Et il dit « Est-ce que Dieu était surpris? » Non, pas du tout. Il avait décrit plusieurs années auparavant comment il allait amener Cyrus à conquérir, effectuer plusieurs conquêtes et à s'emparer du royaume babylonien. Dieu n'est pas surpris, frères et sœurs, que nous souffrions, que nous passions des épreuves, qu'il y ait des événements qui sont inattendus pour nous arrivent, que nous soyons persécutés parfois. Et Dieu n'est pas surpris que nous ayons à combattre pour passer à travers la vie. Dieu est en charge. Dieu est en charge. Il est tout-puissant. Est-ce que nous l'admirons pour ça? Rappelez-vous la deuxième chose que je vous ai demandé. Est-ce que nous attendons patiemment qu'il accomplisse son œuvre dans notre vie? Les Juifs ont attendu 70 ans. Est-ce que Dieu les avait abandonnés? Non. Il a accompli son plan exactement selon sa volonté, en son temps, selon son calendrier. Troisièmement, rappelez-vous, nous connaissons sa volonté. Est-ce que nous allons vouloir accomplir sa volonté? Est-ce que nous allons y tenir et persévérer avec son aide? Après la proclamation initiale de Cyrus, ça a pris plusieurs départs des Juifs d'exil pour aller à Jérusalem. En fait, il y a eu quatre vagues de migration des exilés qui ont retourné à Jérusalem. Le premier groupe a été sous Sheshbatsar, comme on voit. C'était un descendant du roi David. Il y a un deuxième groupe qui s'est en allé à Jérusalem sous Zorobabel ensuite. Josué était le souverain sacrificateur. Le troisième groupe qui s'est rendu à Jérusalem à partir de l'exil babylonien l'a fait sous Esdras. On le voit décrit dans ce livre-là. Et après ça, un quatrième groupe s'est rendu à Jérusalem pour reconstruire le temple et la ville. C'est sous Néhémie en 445. Des dizaines de milliers de Juifs sont revenus d'exil pour bâtir Jérusalem. Ça avait été annoncé et ça s'est réalisé. Mais ce n'est pas tous les Juifs qui étaient zélés. Certains étaient zélés, d'autres non. Ça leur a pris un certain temps à bâtir le temple, n'est-ce pas? Quand Dieu nous révèle sa volonté, il nous faut être zélés pour accomplir son œuvre, pour faire sa volonté dans tous les aspects de la vie. Rappelez-vous 1 Pierre 4, verset 17. Le jugement commence par la maison de Dieu, et c'est le cas aujourd'hui. Dieu nous examine, nous, qui l'a appelé. Les Juifs ont souffert pendant 70 ans, puis Dieu les a délivrés et leur a dit « Allez bâtir le temple ». Nous ne souffrons pas du tout en comparaison de ce que les Juifs ont enduré. Mais nous souffrons de différentes façons. Allons à 1 Pierre chapitre 5, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 5. Il nous est dit de prendre notre croix et de suivre le Christ. Et c'est par plusieurs tribulations qu'on doit entrer dans le royaume de Dieu. Voyez ce qu'il a inspiré l'apôtre Pierre d'écrire ici. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 10. Les versets 7, 8, 9 parlent de notre adversaire Satan. Mais au verset 10, ça dit ceci. Le Dieu de toute grâce, Dieu est gracieux envers nous, miséricordieux, patient. Les Juifs ne méritaient pas d'être délivrés de la captivité et nous n'avons pas mérité d'être appelés hors de ce monde. Nous n'avons pas mérité de voir nos fautes être effacées, d'avoir un souverain sacrificateur qui a tout fait pour nous. Nous avons un Dieu suprême, par contre, qui nous a appelés. Que le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, voyez-vous, nous souffrons, vous souffrez, je souffre aussi de différentes façons. Persécution au travail, persécution par d'autres membres, persécution parce que nous faisons des mauvais choix ou que nous agissons mal parfois, toutes sortes de formes de persécution, de difficultés, de tribulations. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous savez que les persécutions vont devenir de plus en plus intenses à mesure que nous allons approcher de la fin. Mais il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce que ce Dieu de grâce va faire? Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu veut que nous devenions matures spirituellement, que nous devenions inébranlables, que nous devenions de plus en plus comme Jésus-Christ jusqu'à la perfection par sa puissance. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà le Dieu que nous servons. Le Dieu qui a amené ce garçonnet hors de l'obscurité et qui l'a fait remplacer son grand-père sur le trône et qui l'a fait renverser Nabuchodonosor ensuite et qui a libéré les Juifs, réalisant ainsi la prophétie des 70 ans. Mais tout ce qu'il a fait, ce jeune homme-là, c'est peu de choses à côté de ce que vous avez à faire et de ce que vous faites, parce que le Christ ne vivait pas dans Cyrus, il vit dans vous et moi, si nous sommes baptisés, si nous sommes convertis, et Dieu est en train de nous perfectionner. On va à travers certaines épreuves, bien sûr, mais Dieu est tout-puissant et sa volonté sera faite. Il va atteindre son but. Philippiens 1, verset 6. Philippiens 1 et le verset 6. Est-ce que nous avons confiance en la suprématie de Dieu, en sa puissance sans borne, à son désir d'amener à la vie éternelle plusieurs fils? Dieu veut que nous devenions ses enfants, êtres spirituels, nés dans sa famille. Est-ce que nous avons cette confiance? Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, pour le jour du retour de Jésus-Christ. On nous a rappelé ça plusieurs fois. Ce verset-là ne dit pas « Soyez persuadés que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va vous forcer d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ce n'est pas ça que ça dit. Son œuvre est bonne. Ce qu'il fait en nous, même si nous souffrons pour un peu de temps, son œuvre qu'il accomplit en nous est bonne, mais nous sommes toujours libres. Sa volonté, c'est que nous soyons ses prémices. Et il peut réaliser ça en nous, mais la décision nous appartient. Le jugement est sur nous. Nous devons craindre Dieu, respecter Dieu. Dieu nous aime beaucoup. Il a sorti les Juifs de leur captivité de 70 ans et il sortira les nations israélites de leur captivité de 3 ans et demi au temps de la fin. Il peut nous sortir de nos difficultés, de nos faiblesses, de nos combats, de nos habitudes. Si nous lui faisons confiance et le supplions, il peut nous délivrer. C'est un Dieu qui délivre et qui nous amène vers le but. 2 Timothée 1 et le verset 10. 2 Timothée 1 et le verset 8, pardon. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Nous n'avons pas à avoir honte de ça du tout. Le Christ a accompli des choses extraordinaires. Le témoignage du Christ, c'est l'Évangile. Nous n'avons pas à avoir honte de l'Évangile. Nous ne devons absolument pas avoir honte de ce témoignage, ni de moi, Paul dit, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu encore. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, un appel saint, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Voilà à quel point nous sommes spéciaux pour Dieu. Nous regardons l'histoire de Cyrus et nous disons, « Wow, il est devenu roi, un roi puissant, le roi de Perse. » Frères et sœurs, vous êtes spéciaux pour Dieu. Qu'est-ce que ça dit ici? Qu'est-ce qui est écrit? Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres ou de notre bonté, mais à cause de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour. Il nous est dit de nous rappeler les choses anciennes. Allons à Daniel, chapitre 2, s'il vous plaît. Daniel, chapitre 2. Nous vivons à la fin d'une époque. Cyrus a joué un rôle important il y a plus de 2000 ans. Mais nous jouons un rôle très important, encore plus important aujourd'hui, dans le plan de Dieu. Daniel 2, verset 1. Daniel 2 et le verset 1. Nabuchodonosor avait eu ce rêve. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Allons plus loin dans le même chapitre. Allons au verset 24 maintenant. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Voici une autre situation semblable à celle où le roi Astiage a voulu tuer les devins et les sages de son royaume, ceux qui prédisaient l'avenir. Mais Daniel avait la foi, n'est-ce pas? Daniel avait foi en Dieu. Il était au milieu de ces grands risques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé devant Dieu, sur ses genoux, avec foi, et il a dit à Dieu, « Utilise-moi. Me voici. Donne-moi de faire ta volonté dans les circonstances où je me trouve. » Nous devons avoir cette sorte de foi. Daniel s'est rendu devant le roi, donc, verset 26, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? » Verset 27, Daniel répondit en présence du roi avec confiance et dit, il était disposé à donner une réponse à partir de l'espoir qu'il avait en lui. Et c'est un événement réel. Nous allons vivre des choses semblables. Nous allons passer à travers des événements qui vont leur ressembler. Est-ce que nous allons avoir la foi de Daniel si notre patron ou le maire ou la police ou le roi ou le président nous met à l'épreuve de cette façon-là? Est-ce que nous allons avoir la foi de Daniel? Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. » Daniel a donné tout de suite le crédit à Dieu, voyez-vous, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. « Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Et après, il continue en décrivant la vision. Verset 31, « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. » Bien sûr, ça représentait l'Empire babylonien sous Nebuchadnezzar. Et après, Daniel parle de la poitrine et des bras qui étaient d'argent. Ça représente qui? Ça allait être Cyrus, le roi des Perses. Alors, Daniel a interprété le rêve. Dieu lui a donné la compréhension et il a décrit la poitrine et les bras d'argent, et ensuite le ventre, les cuisses, des reins, les jambes de fer, et ainsi de suite. Et au verset 34, regardez bien, Daniel révèle que le roi a vu une pierre qui, avec l'aide d'aucune main, a frappé les pieds de la statue et que toute la statue s'est effondrée, que cette pierre allait représenter le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a expliqué. Gardez votre place ici et allons à Matthieu 24. Allons à Matthieu chapitre 24, un verset, un passage que nous connaissons très bien. Daniel n'a pas eu peur d'expliquer au roi le royaume qui allait venir sur toute la terre un peu plus tard, même beaucoup plus tard. Matthieu 24, et nous allons lire à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? » Verset 4, il leur a dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ce sera une période traumatisante, semblable à celle qu'a connue Daniel à ce moment-là. Mais où était la foi de Daniel? Est-ce que Daniel a vu Dieu comme l'être tout-puissant et souverain qu'il est? Absolument. C'est ce qu'il voyait et c'est ce qui lui a donné le courage. Est-ce que nous allons avoir la foi de Daniel lorsque ces temps vont revenir? Le Christ décrit ce qui arrive au temps de la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et ainsi de suite, et il y aura des tribulations. Il y aura plusieurs faux prophètes. L'amour du plus grand nombre se refroidira, comme on voit au verset 12. C'est annoncé, c'est prédit. Plusieurs vont devenir tièdes. Ils n'auront plus ce zèle. Ils ne se rappelleront plus que Dieu est tout-puissant. Ils oublieront les choses anciennes. Il faut se rappeler les choses anciennes. Dieu a élevé cet enfant esclave qui ne savait pas être le fils d'un roi. Et Dieu a utilisé ce jeune homme pour délivrer les Juifs. Dieu a ouvert la mer Rouge pour que Israël passe et qu'il soit délivré. Plusieurs ont été ressuscités. Dieu a sauvé Noé et sa famille du déluge. Plusieurs ne s'en rappelleront plus. Est-ce que nous allons nous en rappeler? Nous allons vivre des temps difficiles. Nous allons vivre des temps extrêmement difficiles. Dieu a accompli toujours sa volonté exactement comme il l'avait annoncé. Quelle est sa volonté aujourd'hui? Verset 13. Que nous persévérions, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et qu'est-ce qui fait partie de persévérer? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dieu a toujours demandé à ses serviteurs de déclarer, de faire connaître sa volonté, de livrer le message qu'il avait à livrer. Daniel a déclaré à Nebuchadnezzar tout ce qui allait arriver au cours de l'histoire. Il était assez proche de Dieu pour avoir la foi nécessaire pour parler au roi de cette façon-là, même au milieu de tous ces massacres qu'il y avait et de ces risques qu'il y avait. Est-ce que nous allons avoir cette sorte de foi? Je pense que oui. Je pense que c'est pour ça que nous sommes ici. Il faut continuer et je prie que nous continuions et que je continue dans le même sens. Revenons à Daniel chapitre 2 maintenant, verset 36. Daniel a révélé le rêve au roi et sa signification. Verset 37, « Au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire, et il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Et après, il parle du royaume qui va lui succéder. Un quatrième royaume, au verset 40, il y aura un quatrième royaume fort comme le fer, de même que le fer brise et rompt tout. Ça représente l'Empire romain. Regardez au verset 41. « Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume, ce dernier royaume sur la terre sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Cet empire va continuer jusqu'à la fin de l'époque actuelle. Ses jambes, ses pieds continuent jusqu'à la fin de l'histoire humaine. On voit au verset 44, « Dans le temps de ces rois, à la toute fin de l'histoire humaine, d'ici quelques brèves années, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Ici, Daniel prêche le royaume de Dieu au roi Nebuchadnezzar. Un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Il annonce le royaume éternel de Dieu. C'est le message auquel nous croyons et que nous annonçons. C'est l'évangile que nous annonçons exactement et c'est la volonté de Dieu. Il va accomplir exactement sa volonté. Verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. C'est tellement encourageant de voir comment Daniel a conclu les choses. Daniel dit en terminant, le songe est véritable et son explication est certaine. Ça va se produire. J'ai hâte de rencontrer Daniel. J'espère que je vais y arriver. J'espère que je serai dans la première résurrection. Daniel y sera. C'est beau de voir la confiance qu'il avait. Est-ce que nous avons cette confiance? Daniel a vécu à une époque très tumultueuse. Mais regardez la confiance qu'il avait malgré tout. J'ai hâte de le voir, de le rencontrer. J'ai hâte de rencontrer Cyrus, de lui parler. Probablement au moment de la résurrection du grand trône blanc. La volonté de Dieu sera accomplie. Est-ce que nous serons diligents pour vaincre? Est-ce que nous allons continuer à être zélés pour accomplir l'Évangile? Est-ce que nous allons persévérer pour passer dans ces portes ouvertes que Dieu nous donne pour accomplir son œuvre et annoncer l'Évangile au monde? Est-ce que nous allons tenir ferme et être zélés? Allons à Apocalypse chapitre 3, s'il vous plaît. Dieu nous a donné ces exemples des temps anciens pour nous rappeler qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il est le Dieu suprême. Il élève des royaumes, il provoque la chute des royaumes et il appelle qui il veut. Il vous a choisi personnellement, individuellement. Vous ne vous êtes pas choisi vous-même. C'est lui qui vous a choisi et qui vous a attiré au Christ. Vous êtes spécial à ses yeux. Il veut que vous fassiez partie de ceux qui accomplissent sa volonté et qui accomplissent son œuvre au temps de la fin, qui fassent partie de sa famille éternellement. Apocalypse 3 et le verset 7, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre la clé de David, on sait que ça représente la bonne forme de gouvernement selon Dieu. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est ce qui nous dit qu'on pourra aller prêcher l'Évangile jusqu'à la fin, jusqu'à temps que Dieu ferme la porte, comme il l'annonce. Nous allons pouvoir le faire. Dieu nous donne l'occasion d'annoncer l'Évangile, comme il a donné à Daniel l'occasion d'annoncer à Nébuchadnezzar l'Évangile. C'est une bénédiction extraordinaire que Dieu nous accorde. « Je connais tes œuvres », verset 8. « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » C'est la volonté de Dieu que cette porte ne se ferme pas jusqu'au moment où lui décidera qu'elle doit être fermée, à la toute fin. Les portes de la destruction, les portes de l'enfer ne peuvent pas détruire l'Église. Satan ne peut pas détruire l'Église. Le monde ne peut pas détruire l'Église de Dieu. C'est l'Église de Dieu. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je sais que tu as peu de puissance. Nous ne sommes pas les rois de la terre, mais nous appartenons à Dieu. Et il est le Tout-Puissant. C'est lui qui mène. Tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne quelques-uns, verset 9 de la synagogue de Satan, qui se dit juif et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Parce que nous avons persévéré, parce que nous persévérerons, il nous gardera à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. C'est un avertissement en même temps. C'est un avertissement, mais en même temps, c'est un encouragement. Il dit, faites attention, il va venir des temps difficiles, tenez bon. Verset 11, je viens bientôt, retiens ce que tu as fait que personne ne prenne ta couronne. Rappelons-nous les choses anciennes, tenons ferme. Rappelons-nous que notre Dieu est le Dieu suprême. Admirons-le. Admirons sa toute-puissance. Il va accomplir sa volonté, il peut le faire. Attendons patiemment qu'il accomplisse les choses selon les étapes de son plan. Lorsque nous sommes testés, mis à l'épreuve, soyons patients, persévérons, accomplissons sa volonté. Parfois, il nous faut faire preuve de beaucoup de patience. Dieu nous révèle sa volonté, il nous dit quelle est sa volonté. Soyons disposés à accomplir ce qu'il veut que nous accomplissions. Que sa volonté devienne notre volonté. Apprenons les leçons merveilleuses de l'histoire. Apprenons les leçons de Cyrus, loin de l'Éternel.